Bienvenue. Alors aujourd'hui, on plonge dans le Maroc de début 2026 et on a une source vraiment passionnante pour ça. Le magazine connecté l'ODJ Images de décembre 2025.
Oui, c'est une vraie mine d'informations. Ça brosse un portrait plein de contrastes du pays.
Exactement. Et notre idée, c'est de décrypter ce qui préoccupe vraiment les Marocains et de voir comment l'actualité récente, elle répond à ça. Ou pas d'ailleurs.
Et pour nous guider, il y a ce fil rouge, cet édito du magazine, qui propose un classement des 12 priorités des Marocains.
Voilà. Ce n'est pas un sondage scientifique, l'éditorialiste le dit bien. C'est une photographie crédible de l'air du temps.
Et ce qui frappe tout de suite dans cette photographie, c'est à quel point elle est concrète. On a l'impression que les grands discours, ça intéresse plus grand monde.
Ah, c'est clair.
Ce que les gens veulent, c'est que ça marche au quotidien, quoi. D'ailleurs, le trio de tête, il est sans équivoque. Le pouvoir d'achat en premier, cité par 82%.
Énorme.
Puis l'emploi à 78% et la santé 74%. On est vraiment dans le pragmatique.
Mais justement, commençons par là, par ce quotidien. Le pouvoir d'achat, c'est le nerf de la guerre, évidemment. Mais il y a d'autres choses comme la sécurité, la justice, qui prennent une tournure dramatique avec l'actu.
Oui.
Le magazine revient sur les inondations terribles de Safi. Au moins 37 morts. Là, on n'est plus dans un concept abstrait de sécurité. C'est une angoisse brute, très concrète.
C'est lié aux infrastructures, à la gestion de crise, à la protection la plus basique, en fait.
Tout à fait.
Et ce drame, il nous ramène à une autre priorité, la numéro 8, la lutte contre la corruption. Parce que derrière des infrastructures qui cèdent, il y a souvent la question des budgets des marchés publics.
Bien sûr.
Une catastrophe qu'on dit naturelle, elle a très souvent des causes profondément humaines.
Et politiques.
L'article sur le dérèglement climatique le dit bien d'ailleurs, la prévention coûte moins cher que la réparation. Surtout la réparation humaine.
Exactement.
Et on voit bien cette tension. D'un côté, on demande à l'État de nous protéger contre les catastrophes, la criminalité. Et de l'autre, on veut être protégé de l'État. Ou de ces dysfonctionnements.
Et c'est là que la justice entre en jeu. Le magazine parle de la réforme du code de procédure pénale qui est entrée en vigueur le 9 décembre.
Ah oui, c'est une avancée importante.
Elle renforce les droits de la défense, l'accès à un avocat dès la première heure de garde à vue, un contrôle plus strict de la détention provisoire. Ça va dans le bon sens.
Oui, et ça, c'est un des grands paradoxes du Maroc moderne. D'un côté, l'État se modernise. Il adopte des standards internationaux. Et de l'autre, des drames comme Safi rappellent l'urgence de la protection la plus fondamentale.
C'est cette double vitesse.
Voilà, c'est ça qui crée des frustrations. L'attente est énorme, mais sur les deux tableaux en même temps.
Et cette double vitesse, on la retrouve de façon encore plus spectaculaire dans la santé. C'est la priorité numéro 3. Le contraste m'a vraiment saisi.
C'est-à-dire ?
D'un côté, le magazine nous montre des photos de chirurgie robotique à l'hôpital militaire de Rabat. 4 opérations de pointe sur des tumeurs, réussies, avec une précision millimétrique.
La vitrine de l'excellence.
C'est ça, on a l'image d'un Maroc à la pointe de la technologie médicale.
Et c'est une vitrine importante, ça montre une ambition, une capacité à intégrer des technologies de classe mondiale. Ils ont 3 salles dédiées, ils forment même des chirurgiens d'autres pays africains. C'est un outil de soft power médical, en fait.
Oui, mais juste à côté de cet article sur le futur, il y a une interview coup de poing. C'est le cri d'alarme du docteur Anouar Cherkaoui sur le don d'organes.
Ah oui.
Il parle d'une honte lucide. Il dit qu'au Maroc, des milliers de personnes meurent en attendant une greffe, faute d'un programme national structuré. C'est quand même fou quand on y pense, non ?
C'est plus que fou, c'est un paradoxe qui définit peut-être le Maroc d'aujourd'hui. On sait faire opérer un robot, une technologie ultra complexe, mais on peine à organiser la solidarité la plus humaine, la plus fondamentale.
Le défi n'est pas technologique, en fait.
Pas du tout. Il est sociétal, organisationnel, culturel. C'est ça le vrai enjeu. L'article cite l'exemple du snowboarder Chris Klug, qui a gagné une médaille olympique après une greffe. Ça montre bien que c'est une seconde vie.
Une seconde chance que le système n'arrive pas à offrir à grande échelle. Et cette demande de santé, on la voit aussi dans des choses plus triviales.
Ah oui, les petites chroniques.
Oui, qui démystifient des idées reçues. Non, c'est pas le froid qui enrhume, c'est l'air sec. Non, le stress cause pas le reflux gastrique, mais il en amplifie la douleur. C'est anecdotique, mais ça répond à un besoin d'informations fiables, accessibles.
Exactement. C'est le besoin d'être mieux outillé au quotidien.
Et cette question d'un système qui peine à s'adapter, on la retrouve de manière explosive dans ce qui est, pour moi, la grosse révélation de ce magazine. Le dossier sur le basculement démographique du pays.
Ah, on y arrive.
Quand j'ai lu les chiffres du recensement de 2024, j'ai dû les relire 2 fois. Le changement est tellement radical. Est-ce qu'on mesure vraiment l'ampleur de ce qui s'est passé en 10 ans?
Non, je pense pas. La prise de conscience est encore partielle. Les chiffres sont vertigineux. Le nombre d'étrangers au Maroc a bondi de 76% en 10 ans.
C'est énorme.
Mais le chiffre brut, ça dit pas tout. La vraie révolution, c'est l'origine de ces personnes. Pour faire simple, il y a 10 ans, un étranger au Maroc, c'était d'abord un Européen, un retraité, un expat. Il représentait 40%.
C'était l'image qu'on avait en tête, oui.
Aujourd'hui, cette image est complètement dépassée. La part des Européens a été divisée par 2, elle est tombée à 20%. Et pendant ce temps, la part des Africains subsahariens a explosé, passant de 27% à presque 60%.
C'est un renversement complet.
Total. On est passé d'un flux nord-sud à un flux sud-sud dominant.
Et qu'est-ce qui explique un basculement aussi rapide?
C'est une combinaison de plusieurs choses. La stabilité et le dynamisme du Maroc, bien sûr, qui attirent sur le continent. Il y a aussi une volonté politique, avec la stratégie nationale d'immigration et d'asile de 2013.
Les régularisations massives?
Voilà. Et puis, il y a une reconfiguration des routes migratoires. Le Maroc est devenu une destination finale, plus seulement un pays de transit.
Mais ce que l'édito met en avant, et c'est peut-être le plus important, c'est pas juste l'arrivée de gens, c'est leur intégration. Le chiffre qui change tout, c'est celui des ménages mixtes.
Ah oui, près de 70%.
Presque 70% des foyers avec un étranger sont des foyers mixtes.
Et ça change absolument tout. Ça veut dire que la migration, c'est plus une affaire de communautés qui vivent en parallèle. Ça s'ancre dans le tissu le plus intime du pays, la famille.
Ça devient une réalité du quotidien.
Exactement. L'immigration, c'est plus eux. C'est le conjoint, le voisin, le parent d'élève. Ça force la société à s'adapter beaucoup plus profondément.
Et cette nouvelle réalité, elle a une géographie très particulière. J'ai l'impression que tout se concentre au même endroit.
Oui, la concentration est extrême. Casablanca, c'est un aimant surpuissant. La ville aspire à elle seule 43% de tous les étrangers du pays.
43%? C'est fou.
Et le deuxième pôle, c'est Marrakech, qui a doublé sa part en 10 ans. En fait, la carte du Maroc migratoire, c'est la carte du Maroc des opportunités.
Et à l'inverse, des régions comme l'Oriental ou Fès-Meknès déclinent.
Leur population étrangère s'effondre.
Oui. Et le profil de ces nouveaux arrivants est aussi surprenant. On est loin des clichés.
Très loin. C'est l'autre grosse surprise du recensement. Le niveau de qualification est très élevé. Près de 40% des étrangers sont diplômés du supérieur.
Le Maroc devient un hub universitaire africain, en fait.
Clairement. Il attire des talents, des étudiants qui viennent se former et qui, souvent, restent. Et l'autre tendance de fond, c'est la féminisation. Les femmes, elles représentent 44% du total. Et c'est encore plus marqué pour certaines nationalités, comme les Ivoiriennes ou les Philippines.
Et ces femmes, on les retrouve souvent dans les métiers des services du Caire.
Exactement. Et c'est là qu'on boucle la boucle avec les préoccupations des Marocains. Cette nouvelle population, qualifiée, jeune, féminine, elle participe à l'économie, souvent dans des secteurs essentiels mais peu valorisés, et très informels.
Ce qui pose d'énormes défis.
Immense, en termes de droits du travail, de logement, de protection sociale, dans des villes comme Casablanca qui sont déjà sous pression. Cette nouvelle démographie, elle entre en collision directe avec les attentes des Marocains sur l'emploi, le logement, les inégalités.
C'est fascinant de voir comment tout s'entremêle. Et ça nous amène à la troisième partie, comment le Maroc se projette, comment il construit son avenir.
Et là, on a l'impression d'une double stratégie.
C'est ça. On pourrait dire une stratégie de hard power industriel et écologique et une autre de soft power culturel et tech.
Les deux avancent en parallèle.
Commençons par le hard power. Le défi le plus existentiel, c'est l'eau. Priorité numéro 10, citée par 52% des gens. Et la réponse, elle est massive. Le dessalement de l'eau de mer.
L'ambition est folle, oui.
Produire 1,7 milliard de mètres cubes d'ici 2030 en s'appuyant sur les énergies renouvelables. 17 usines sont déjà en service.
Et on voit que ça se concrétise. L'exemple du groupe OCP qui met en service 3 immenses centrales solaires pour ses propres usines, c'est très significatif.
C'est plus juste un discours.
Non, c'est l'industrie lourde qui investit massivement dans sa transition. C'est un signal fort.
Mais est-ce que cette ambition est toujours suivie des faits? J'ai noté un article un peu plus prudent sur l'hydrogène vert.
C'est le bémol, oui. L'article pose la bonne question. Le Maroc avance-t-il vraiment ou marque-t-il le pas? Le pays a été un pionnier, mais depuis, on sent un certain flottement, un ralentissement.
Pendant que d'autres pays accélèrent.
Exactement. Et c'est un peu le résumé de la situation. Un potentiel énorme, reconnu par tout le monde, mais la transformation de ce potentiel en leadership durable, c'est le grand enjeu. Le classement de Solability sur la compétitivité le confirme. Le Maroc est dans la moyenne mondiale. Ni un cancre, ni un leader.
Le défi, c'est de basculer dans le groupe de tête.
Voilà.
Et à côté de cette bataille industrielle, il y a l'autre volet, cette offensive de soft power. La Coupe d'Afrique des Nations 2025, c'est la pièce maîtresse, bien sûr.
C'est une vitrine pour tout le pays.
Comme officiel de la CAN, on sent une vraie effervescence.
C'est l'idée de se positionner comme un carrefour culturel, ouvert et créatif. Et cette ouverture, elle passe aussi par l'adoption des dernières tendances tech. Le magazine en parle de façon presque anecdotique, mais c'est révélateur.
Ah oui, j'ai vu l'article sur le Wrapped de ChatGPT.
Voilà, ou la nouvelle fonction de Gmail qui permet enfin de changer son adresse. Ça montre comment la tech mondiale s'infiltre dans le quotidien.
J'ai même vu ce projet un peu fou, Gumdrop, le stylo intelligent développé par OpenAI et Johnny Ive, le designer mythique d'Apple.
Même nos stylos se mettent à penser.
C'est dire à quel point l'IA devient omniprésente.
En résumé, si on prend un peu de recul, le portrait du Maroc début 2026, c'est celui d'un pays traversé par des tensions très fortes, entre une technologie de pointe comme le robot chirurgien et des défis de base, comme des infrastructures qui résistent à la pluie.
Ou un système de dons d'organes à construire.
Exactement. Entre une ambition de leadership continental et une compétitivité encore moyenne. Mais la transformation la plus profonde, la plus silencieuse peut-être, c'est ce basculement démographique. En 10 ans, le Maroc est devenu un pays d'accueil, un carrefour pour l'Afrique. C'est un fait social total qui change son identité.
Pour finir, je repense à cette phrase dans l'éditorial sur la migration. Il conclut en disant « Le Maroc est un pays d'accueil. Ce n'est plus un slogan, c'est un fait démographique. Reste à en faire un projet de société. »
C'est la phrase clé.
Et ça nous laisse avec une question vertigineuse. Une question que les sources posent sans y répondre. Est-ce que les aspirations très concrètes des Marocains, le pouvoir d'achat, l'emploi, la santé, sont compatibles avec cette nouvelle réalité?
La question de l'alignement.
Voilà. Est-ce que les politiques publiques, et surtout les mentalités, vont évoluer assez vite pour que ce basculement historique devienne une richesse partagée, et non la source des tensions de demain?